prêté pour un enlu entre les Uruguayens et le Brésilien Bonasso qui est en train de naître.
L'avant-match avec Hakim Tamim.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à l'avant-match du vendredi. Vous le savez, c'est le football européen qui est à la une. Le vendredi, ça commence déjà pour les équipes africaines puisque la Ligue des Champions, les quarts de finale, le Zamalek qui affronte l'Espérance et puis ce soir le Raja contre le TP Mazembe. La suite demain avec notamment le derby maghrébin entre le WAC et l'Étoile du Sahel, Al Ahly contre Sundowns. On va revenir sur les huitièmes de finale, aller suite et fin de la Ligue des Champions. Notre ami, bien sûr, Redouane à la réalisation. Abdelnour, le monsieur des réseaux sociaux, pour vous permettre de suivre cette émission avec vos commentaires et toute l'équipe, bien sûr, Namir avec également Abdelrahim et toute l'équipe pour vous accompagner, pour vous servir. Notre ami David Lortolari. Bonsoir, David.
Bonsoir Hakim, bonsoir à tous.
David, le football allemand, vous le savez, carton plein, puisque les équipes allemandes en Ligue des Champions, on parle même pas de l'Europa League, eh bien, ont réussi leur première manche en attendant la confirmation lors du match retour. Le Bayern Munich a fait comme le Borussia Dortmund ou encore Leipzig en gagnant la manche aller. En France, eh bien, c'est du 50-50. Le PSG a perdu et Lyon a gagné. C'est quand même une performance face à une formation de la Juve. Bonsoir Hervé Penaud.
Bonsoir à vous les amis, et oui, nous avons eu quand même, pour nous, une semaine, enfin, entre la semaine dernière et cette semaine, une semaine européenne très étonnante pour nos représentants.
Justement, vous restez avec nous au RV, on doit libérer David Lortolari. David, le Bayern Munich n'a fait qu'une bouchée de Chelsea en déplacement, 3-0. Bonne nouvelle, bien sûr, pour le football allemand. Par contre, la mauvaise, c'est la blessure de la star de cette équipe, Lewandowski. On commence d'abord par ce match et cette large victoire.
Oui, qui avait été ce match contextualisé par les médias en écho et en rapport avec le traumatisme, la douleur de 2012, lorsque le Bayern avait échoué en finale chez lui, dans l'Allianz Arena, contre Chelsea, avec un but de Didier Drogba à la toute fin du temps réglementaire et une défaite donc en finale au tir au but. Et c'est quelque chose qui est très très ancré dans le souvenir des supporters et des sympathisants et des suiveurs du Bayern, et on avait toujours cet esprit de revanche dans un coin de la tête. Les joueurs sans doute pas, parce que eux sont concentrés bien sûr sur leur montée en puissance, et dans ce match-là, effectivement, le Bayern a eu des solutions et a été performant partout. A été performant dans les buts. Neuer s'est rattrapé de sa bourde du week-end précédent, sa bourde annuelle on va dire, puisqu'il en fait à peu près une par an. En défense, ça a été performant aussi avec un Jérôme Boateng un petit peu à l'ancienne, qui a réalisé un tacle très important en deuxième période, qui a empêché Chelsea d'avoir une action très très chaude. Les latéraux ont été très offensifs, et il va falloir qu'on reparle un jour ou l'autre de ce phénomène canadien Alphonso Davies qui apporte vraiment beaucoup à cette équipe. Milieu de terrain, avec le rayonnement de Thiago qui n'a pas été loin de faire peut-être sa meilleure prestation de la saison en touchant et en aimantant beaucoup de ballons. Et puis devant, beaucoup de complicité entre Lewandowski et Serge Gnabry, ce sont les deux peut-être principaux hommes de ce match-là. Et c'est toutes ces satisfactions additionnées qui ont permis au Bayern d'être nettement, nettement plus fort que Chelsea, même si le match effectivement était à Londres.
Bon, je le disais tout à l'heure, dans cette histoire, c'est, on va dire, parce qu'il y a eu blessure et les prochains matchs, on le sait, le championnat allemand est très disputé. Le Bayern Munich revient en tête après avoir longtemps couru derrière les équipes qui occupaient les premières places. Et puis, il y a aussi ce match retour et la suite de la compétition. Et Lewandowski, c'est un élément clé, important, déterminant même pour l'équipe de la Bavière.
Oui, et on est un peu inquiet parce que le diagnostic n'est peut-être pas de la plus grande fiabilité, et l'ambiance autour du club ces dernières heures, c'était de dire attention, on a prévu un mois d'absence environ pour Lewandowski, et donc raisonnablement une possible réapparition de sa part pour le tour suivant de Ligue des Champions si le Bayern confirme à domicile sa qualification probable. Mais aujourd'hui, on est un peu moins certain, et on se dit, avec notamment des témoignages de médecins de l'extérieur, on essaye d'être un peu plus prudent et de se dire attention, il y aura peut-être quelques complications, et ça n'est pas sûr qu'il soit de retour dans un mois. Donc c'est une source d'inquiétude, même si dans l'esprit de l'entraîneur, je crois que les choses sont assez claires, dans l'esprit d'Hansi Flick et Hakim. Le remplaçant à ce poste pour Lewandowski, l'homme qui est en pôle, c'est Serge Gnabry. Et autour de lui, on organisera les choses sans doute avec un Müller à droite et un Coutinho à sa gauche. Et c'est l'option la plus sérieuse et la plus probable pendant le temps d'absence et la période d'absence de Lewandowski.
Voilà, un dernier mot comme ça, on libère rapidement. Hervé, bien sûr, les trois équipes en Ligue des Champions se sont plutôt bien comportées. L'Europa League aussi, par quoi peut-on expliquer ? C'est peut-être juste le début, c'est pas encore la fin. Il n'y a pas eu de confirmation pour les matchs retour. Il y a eu les qualifications pour l'Europa League. Le tirage au sort a eu lieu tout à l'heure. Mais est-ce qu'on peut dire que le football allemand, au niveau des clubs notamment, eh bien, ça repart de nouveau ?
Oui, peut-être que sa philosophie, peut-être que sa manière de jouer, qui est quand même très largement offensive, courageuse, avec la volonté d'aller chercher des buts, un but de plus que l'adversaire, peut-être que ça correspond mieux au football du moment. Peut-être qu'on souffre moins de défense extrêmement resserrée, et c'est l'une des explications peut-être, avec une explication beaucoup moins fiable et certaine, qui est celle de la trêve, qui permet aussi à ces équipes d'être fraîches, relativement fraîches physiquement en février, mars, avril. Ça peut être une explication annexe, mais la principale explication, je crois, c'est que les entraîneurs qui ont cette philosophie offensive et courageuse se trouvent aujourd'hui avec des solutions, parce que les adversaires sont peut-être un peu moins recroquevillés qu'ils n'ont pu être en moyenne. Et peut-être que, voilà, c'est une explication, une des explications parmi d'autres de cette forme du moment.
Merci beaucoup David Lortolari, notre monsieur football allemand, et à lundi prochain. On ouvre d'un...
Avec plaisir.
Merci beaucoup. On ouvre la page du football africain avant d'aller en Europe. Et dans un instant, on sera avec Simone Rovera pour le football italien. Cette défaite de la Juve, justement, qui a chuté en France face à l'Olympique Lyonnais. On y revient dans un instant. Mais d'abord, un petit mot sur les quarts de finale de la Ligue des Champions. Hervé Penon, on le sait, deux matchs ce vendredi avec le Zamalek du Caire face à l'Espérance. Ça se passe en Égypte, un match arbitré par le Marocain Erdouane Jaïd. Et puis ce soir, le Raja face au TP Mazembe. Demain à la suite, l'Ouak face à l'Étoile du Sahel, un derby maghrébin. Et également l'équipe d'El Ahli face au Sud-Africain de Sandhaus. Un petit mot sur ces affiches avant de parler football européen.
Bon, on se retrouve avec les équipes attendues, hein. On en avait déjà parlé, il n'y a pas de grosses surprises, hein. Une nouvelle fois, il y a quand même le foot nord-africain qui est en train de truster à peu près toutes les places, hein. On se retrouve avec Mamelodi Sundowns et bien sûr LTP Mazembe. Alors deux équipes qui sont habituées, hein. LTP Mazembe, on sait son histoire avec la Ligue des Champions africaine et même la C3 africaine depuis des années. Mamelodi Sundowns, c'est un peu le retour du football sud-africain au haut niveau, mais il n'en reste pas moins que les clubs de nord-africains seront les favoris, hein, de ces différentes confrontations, même si attention, entre le Raja et LTP Mazembe, Mazembe c'est une équipe qui a l'expérience, qui a déjà gagné aussi cette Ligue des Champions, qui jouera le match retour à domicile. Et on sait que là-bas, c'est jamais facile, hein, d'aller battre les corbeaux chez eux, hein, parce qu'ils ont une histoire avec leur stade qui est assez particulière, une ambiance assez phénoménale, avec un vrai groupe de supporters qui est derrière, des joueurs qu'on connaît, hein, on va pas les citer, qui ont beaucoup de potentiel et beaucoup de talent. Mais c'est vraiment quatre matchs très très intéressants, qui à des degrés divers, hein, peuvent montrer un peu les progrès des différents footballs. Alors c'est important d'avoir deux clubs marocains, hein, et puis alors j'allais dire deux clubs de la même ville, ce qui est encore plus incroyable, hein, avec la possibilité de les voir encore plus loin, hein, en Ligue des Champions. Mais on l'a souvent dit, hein, c'est-à-dire que le football marocain maintenant est revenu à un très haut niveau et s'est installé totalement depuis quelques années au sommet du football continental. Mais reste qu'aujourd'hui, on pense bien évidemment à l'Espérance de Tunis qui semble se dégager, Zamalek, même si Zamalek, attention, en ce moment le Zamalek a des résultats assez incroyables, hein, avec un carteron qui semble avoir trouvé des clés. Mais l'Espérance de Tunis semble du groupe l'équipe peut-être la favorite, hein, pour aller au bout. Il faudra se méfier d'Al Ahly. Évidemment, les deux clubs, le WAC et le Raja. Alors, le WAC devrait s'en sortir contre l'Étoile du Sahel. Le Raja Casablanca, ce sera quand même plus compliqué contre TP Mazembe. Mais j'attends de voir les résultats des matchs allés pour avoir vraiment une vision beaucoup plus claire de ce qu'on va voir avant le retour, et puis bien évidemment pour la suite.
Le WAC qui vient de changer d'entraîneur après Zoran, oui, et également Sébastien Desabre. Eh bien, c'est Juan Carlos Garrido qui était justement du côté de l'Étoile du Sahel, ancien du Raja de Casablanca. Le bonjour à Abdelhamid Feneri et également Paolo Adam qui passe le bonjour à l'équipe. On parle de la Ligue des Champions en Europe. Ce match entre Lyon et la Juve, ce qui est bizarre, ce qui est surprenant, c'est que la Juve n'a pas cadré un seul tir. Quand on voit, il y a des joueurs comme Ronaldo, comme Dybala, comme Higuain, il y a eu des tentatives, mais zéro tir cadré face à une accrocheuse équipe de Lyon, en première mi-temps surtout, parce que la deuxième, les Lyonnais ont surtout défendu, et c'est normal après tout, Hervé.
Oui, bah déjà ce qu'ils ont réussi à faire, c'est assez phénoménal, hein, parce que personne ne s'attendait à voir un Lyon capable de mettre à mal la Juve déjà lors de la première période, parce qu'ils ont vraiment été très intéressants dans leur ressortie de balle techniquement. Et puis en deuxième mi-temps, bah, un moment quand vous avez un adversaire qui est supérieur, qui a besoin de marquer, et bah, vous recroquevillez un petit peu plus, et c'est ce qui s'est passé. Mais ce qui est intéressant avec cette équipe de Lyon, c'est qu'elle a réussi à défendre sans concéder de vraies grosses occasions. Alors bien entendu, il y a certainement la maladresse des Italiens qui n'ont pas réussi à mettre en place leur jeu, mais pour pas pouvoir mettre en place votre jeu, d'une certaine manière, faut aussi qu'on fasse, on soit capable de bloquer ces espaces où vous avez l'habitude d'évoluer. Ils ont jamais trouvé la profondeur dans le dos de la défense lyonnaise. Et ça fait que, comme ça, ils ont jamais mis en difficulté Lopez, le gardien lyonnais, qui a eu une soirée au final très tranquille, hein. Il a pas eu grand chose à faire, hein. Bon, zéro tir cadré, ça veut tout dire. Mais même en termes de pression, il aurait pu être mis sous pression souvent. Ça n'a pas été vraiment le cas. Et les défenseurs sont super bien sortis. Là, franchement, on a vu une équipe de Lyon qu'on n'attendait pas. Alors, on dit souvent de Lyon qu'il peut y avoir un Lyon à deux visages, un Lyon qui est très très fort contre les gros et beaucoup plus en difficulté contre les petits. Mais c'est pas ce qu'on avait vu depuis le début de saison, où on avait vu un Lyon en difficulté contre tout le monde. Hein, on savait que ça allait pas très bien. Mais là, on a l'impression que Garcia a trouvé. Alors, je vais pas dire les clés parce que avec Lyon, faut jamais dire ça. Mais a trouvé quand même un système déjà qui correspondait à la qualité individuelle de ses joueurs. Là, il l'a mis en 3-5-2 qui pourrait se mouvoir en 3-4-3 quand vous jouerez contre des équipes françaises, par exemple le derby, le fameux derby dimanche, on peut jouer en 4 avec 3 attaquants parce que 2 attaquants c'est pas suffisant. Mais là, le fait d'avoir renforcé ce milieu de terrain, ça a permis enfin de sécuriser l'axe et évidemment de concéder moins d'occasions. Alors ce qu'il faut mettre en valeur aussi, c'est l'arrivée de Guimarães, hein, qui vient du Mercato, qui est brésilien, jeune brésilien, qui a joué le tournoi préqualificatif au JO avec le Brésil, qui est son capitaine, qui a été élu meilleur joueur du tournoi d'ailleurs, et qui a une vraie qualité technique, qui a la qualité technique que recherchait Juninho quand il arrivait comme directeur sportif. Il voulait, si vous voulez, un premier relanceur, celui qui serait dans un 4-3-3, par exemple, la pointe basse. Là, ça a été à 4-5-2, mais avec une pointe basse qui était Guimarães. Et bien, ce qui serait celui qui donnerait le tempo par la qualité de passe, un peu à la Pjanic, à la Juve, à la Totti, à la Juve, pareil, où ils avaient trouvé ce joueur qui était susceptible. Hein?
Mais le joueur de la Juve, il est français aussi. Ah.
Oui, là, mais je pensais à Pjanic, mais je parlais du joueur des années précédentes. Non, son nom m'échappe, c'est terrible ça. Pirlo. Enfin, c'est terrible. Pirlo, voilà, oh là là là, incroyable. Donc un peu ce joueur à la Pirlo, c'est-à-dire capable de faire les différences par sa première passe, alors sans être un gros récupérateur, mais par son intelligence, et ça peut être ce Guimarães. Donc tout ça va changer la structure de l'équipe de Lyon, et d'un seul coup, renaît l'espoir chez les supporters lyonnais de voir une fin de saison en boulet de canon. Mais bien sûr, je l'ai dit avant, il faut toujours se méfier avec Lyon, vous pouvez faire un très bon match là, et puis après retomber dans vos travers. Donc ce qui sera intéressant, c'est de voir la capacité de Lyon à pouvoir rebondir dès le derby, et après ils vont jouer, on en parlera la semaine prochaine, mais ils vont jouer Paris Saint-Germain dans la foulée en demi-finale de la Coupe de France. Mais s'ils sont capables d'aligner comme ça des performances un peu de qualité et de constance surtout, eh bien attention, on peut retrouver un Lyon intéressant, même si évidemment c'est pas le Lyon des années précédentes. Il manque quelques joueurs de talent, et puis il manque même Fils de Paix qui est toujours blessé, bien sûr.
Voilà, il y a Paolo Adam qui nous demande quel impact sur le coronavirus sur le football italien et quelles conditions se dérouleront les matchs le week-end prochain. On posera la question à Simone Rovira qui sera avec nous dans quelques minutes, justement parce qu'il y a beaucoup de matchs qui se dérouleront à huis clos en Italie. Derwish Tarek Benzema besoin de Ronaldo, Benzema le joueur du Real Madrid. On posera la question tout à l'heure à Frédéric Hermel dans la deuxième partie. Vous le savez, le Real battu sur son terrain par Manchester City et qui va affronter le Barça dans le fameux Classico. Justement, vous en parliez, Hervé. C'est le calendrier peut-être qui est l'adversaire de cette équipe lyonnaise, parce qu'il y a le derby face à Saint-Etienne, il y a le match face au PSG en coupe, il y a ensuite Lille, et après la Juve. Est-ce que cette équipe a un effectif capable de tenir la route?
Honnêtement, il faut pas se mentir, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas un effectif susceptible de jouer sur tous les tableaux comme ils le font à l'heure actuelle. On se rend bien compte qu'il y a eu des manques dans cette équipe. Guimaraes va pas jouer tous les matchs d'ici le match retour contre la Juventus. Donc évidemment, il va y avoir des petits problèmes. Et c'est l'avantage d'ailleurs qu'ont Lille ou Marseille. Lille a plus rien à jouer, Marseille a plus rien à jouer, sauf un match par semaine en championnat. Donc de fait, évidemment, vous allez avoir ces équipes-là très avantagées pour la course pour le podium à partir du moment où Lyon a déjà pris beaucoup beaucoup de retard. Et il n'est pas du tout dit que Lyon s'impose à Lille, et s'il s'impose pas à Lille, et ben là je pense que pour le podium ce sera terminé. Donc effectivement, là il y a cette multiplication de matchs, cette multiplication de compétitions peut mettre à mal aussi l'histoire lyonnaise aujourd'hui. Et puis au final, parce que c'est ça le pire, c'est-à-dire que vous pouvez aller loin en Coupe de France, en Coupe de la Ligue et puis en huitième de finale Ligue des Champions, faire un match de très haut niveau contre la Juventus, et puis au final ne rien gagner du tout, et finalement vous échouez partout. Ça c'est la difficulté des fins de saison. Mais d'un autre côté, on va pas se plaindre qu'une équipe joue tout à fond, essaye d'aller le plus loin possible et se retrouve dans toutes les compétitions et en course dans toutes les compétitions. Ça fait partie aussi de l'histoire du jeu, hein. C'est-à-dire que plus vous allez loin partout, bah parfois plus vous avez des joueurs qui se blessent, plus vous avez des joueurs qui se fatiguent, et puis au final, quand il va falloir ramasser les trophées, bah là vous ramassez surtout les morceaux de joueurs qui sont éparpillés à droite et à gauche parce qu'ils sont fatigués et ils n'ont plus après la capacité à faire ces différences. Mais ces 10 jours qui vont venir vont dire beaucoup quand même sur ce Lyon-là, sur cette capacité à Lyon à réitérer ce type de performance, et puis voir si en changeant de joueur, parce que là de fait Rudy Garcia va être obligé de changer de joueur, voir si les ajustements qu'il va pouvoir trouver, les différences de joueurs qu'il va pouvoir utiliser, est-ce que ça va être susceptible de confirmer ce qu'on est en train de voir, l'émergence d'un Lyon enfin au niveau de ce qu'on pouvait attendre de lui en début de saison.
Merci beaucoup Hervé Penaud, notre consultant pour le football français et africain. Bien sûr, on aura l'occasion de revenir sur le week-end en Afrique. Vous le savez, les quarts de finale aller de la Ligue des Champions, toujours 0-0 entre le Zamalek et l'Espérance. À lundi, Hervé, on va parler également des matchs du football espagnol avec le Classico. Ça sera dans la deuxième partie avec Frédéric Hermel, et également la victoire de City, justement, à Madrid avec Aurélien de Vernoy. City qui a une finale de coupe en Angleterre face à Aston Villa. Le bonjour, le bonsoir à Rachid Boumehdi. On accueille à présent Simone Rovera, notre consultant pour le football italien. Bonsoir Simone, un week-end très intéressant, même si malheureusement pas mal de rencontres se dérouleront à huis clos.
Ciao, buonasera, bonsoir. C'est un week-end très important qui vient d'arriver en Serie A, mais aussi pour le foot italien. On sait très bien qu'est-ce qu'est en train de vivre ces pays. L'émergence coronavirus, mais au-delà de ça, on cherchera de parler du foot, de la Juve, de ses chocs face à l'Inter. C'est un très joli menu au programme dans les championnats italiens.
Justement, Juve-Inter de Milan. La Juve avait gagné lors du match aller et se doit de réussir un bon résultat après cette défaite face à Lyon en France en Ligue des Champions. On en parlait tout à l'heure avec Hervé Simone.
Les rendez-vous de ce week-end face à l'Inter pour la Juve risquent d'être déterminants. Bien sûr, il y a cet avantage des 3 points en championnat. Bien sûr, il y a une équipe qui arrive avec de bons résultats en Serie A, la victoire face à Brescia à la Spal, plus pour les résultats que pour la manière. Il y a la force de la Juve qui a toujours répondu présent dans les grands rendez-vous en championnat, bien sûr. Mais qu'est-ce qui va rester dans la tête de cette soirée des Lyons? L'Inter arrive avec, une belle prestation en Ligue Europa, avec beaucoup de remplaçants, donc la tête plus libre, les jambes plus fraîches. Et cette envie, cette possibilité, on peut dire, d'aller écrire pratiquement l'histoire. Les matchs allés à Milan, c'était une victoire déterminante de la Juve 2-1. L'Inter va essayer de, gagner les matchs retour et pourquoi pas aussi gagner avec plus d'un but d'écart pour passer devant, même dans la confrontation directe. On va pas trop loin. L'Inter devrait récupérer Handanovic, c'est très important. Si on se souvient des bourdes de Padelli face à la Lazio qui ont coûté très cher. L'Inter qui a fait reposer Lautaro Martinez. L'Inter qui retrouve une Eriksen toujours plus en forme. Et on a eu 2-3 actions dans ces matchs face à Ludogorets où les talents du Danois étaient sublimes à sa meilleure. Sûrement, on a vu son meilleur visage depuis son arrivée à l'Inter. On a retrouvé cette folie, ces talents, cette capacité de superer les adversaires, des dribbles, des sombreros. Vraiment, toute la technique du Danois à service d'Antonio Conte. Et après, il y aura cette histoire. Bien sûr, dans le football, les supporters sont importants et l'Inter et Juve, Inter va se jouer dans un stade vide, à huis clos. Même les journalistes seront limités dans leur entrée. Il y aura un chiffre stabilisé, une centaine de journalistes. Ça va être une soirée incroyable. Peut-être ça va être la soirée plus importante de la saison dans la lutte au titre. Parce que, n'oublions pas, en cas de match nul, la Lazio pourrait passer devant. En cas de défaite de la Juve, la Lazio pourrait passer devant. Il y a vraiment un enjeu incroyable dans ces matchs. Et on vivra ça dans un stade vide. C'est un peu triste, bien sûr, pour le sport. Après, il y a la santé, il y a tous les discours que sont en train de faire les gouvernements du football et de la politique italienne. Mais imaginez de voir Antonio Conte qui ne rencontre pas ses anciens supporters, qui étaient en train de préparer une lourde accueil pour l'ancienne leader bianconero, ça va peut-être aider l'Inter. Personnellement, j'ai hâte aussi de tourner la page et revivre la normalité de ce sport magnifique qui ne peut pas exister sans les supporters.
Voilà, justement, c'est triste un peu de suivre des matchs sans supporters. Avant de poursuivre, sachez que l'Espérance de Tunis vient d'ouvrir la marque face aux Zamalek du Caire. C'est la première demi-heure, c'est les quarts de finale aller de la Ligue des Champions. La formation tunisienne, on le sait, avait perdu face aux Égyptiens en Supercoupe il y a quelques jours. C'était à Doha au Qatar, un match dirigé par l'arbitre international marocain Redouane Jayed, 1-0 pour l'Espérance. Ce soir, le Raja sera opposé au TP Mazembe. L'envoyé spécial de Média Casablanca, Hassan El Jabiri, eh bien, est sur place pour les deux matchs. Le Raja est également demain, le WAC face à l'Étoile du Sahel. On poursuit, et le bonjour également à Ptar Badr, qui passe le bonjour à toute l'équipe. C'est un plaisir également pour nous d'être là pour vous servir. Et Momo Tatan, bien sûr, voilà pour les auditeurs qui suivent l'émission sur la page officielle, la page Facebook de la radio. On parlait justement du football italien et des questions tout à l'heure de certains auditeurs. Donc, quelle ambiance, parce que c'est triste, je le disais, et au-delà du sportif, bien sûr, il y a la sécurité et la santé des êtres humains, tout simplement. C'est pour ça que cette décision a été prise. Plusieurs matchs en Italie se dérouleront à huis clos. Comment vivent les Italiens, Monsieur X, cette décision de la Fédération, également du ministère de la Santé?
En Italie, tout le monde est en train de vivre mal. Les supporters de la Juve, aussi pour une histoire de remboursement des billets. Mais vraiment, il y a l'impression que le public italien est en train de perdre la plus belle affiche de l'année, la plus belle raison de suivre les foot ce week-end. Il y a même eu l'hypothèse de faire jouer les matchs, de transmettre les matchs en clair pour la télévision, pour ne pas priver encore plus les supporters d'un spectacle qui, pour moi, doit être vraiment ouvert à tous. La presse italienne aujourd'hui est très claire. On est presque en train de voler la magie de ce championnat avec tous les huis clos. On rappelle 5 matchs ce week-end, aussi celui de Milan face au Genoa. L'espoir que la situation puisse vite être réglée, bien sûr, pour la santé de tout le monde, mais aussi pour ne pas vivre d'autres matchs de basket, de volley, de rugby sans spectateurs, et pour revivre au quotidien cette magie, cette folie qui nous fait tomber amoureux du ballon.
Espérons-le. Merci beaucoup, Simone Rovera, notre consultant pour le football italien. Les rencontres du week-end, 5 au total, peut-être même 6, eh bien, se dérouleront à huis clos sans la présence des supporters. Pas de suspension, mais juste pour, bien sûr, éviter ce problème et la propagation de cette épidémie coronavirus. Bien sûr, vous le savez, l'Italie où il y a quelques victimes. Bon, la deuxième partie, on parlera du Real Madrid battu sur son terrain par City, et également, on ira en Angleterre pour City qui disputera la finale de la Coupe d'Angleterre.
Dybala centralmente, ancora grande idea, vantaggio Juve, ha sorpreso con un inserimento alle spalle della difesa del Lille.
La deuxième partie de l'avant-match, changement de score, puisque le Zamalek du Caire a égalisé face à l'Espérance, quart de finale aller de la Ligue des Champions, la Ligue africaine bien sûr. Ce soir, le Raja de Casablanca accueille le TP Mazembe, la suite demain. Tout à l'heure, dans la première partie, on a évoqué le football en Europe, bien entendu, la France, l'Afrique, sans oublier l'Allemagne et l'Italie. La deuxième partie, eh bien, ça sera l'Espagne, des questions déjà de nos auditeurs. Al-Sayedsi, le Real joue sa saison sur le Classico, Vidal est méchant. Ce n'est pas bien de jouer, enfin il est agressif. Bref, nos consultants sont là, on ira en Angleterre et aussi en Espagne. Frédéric Hermel, notre monsieur football espagnol, est avec nous. Bonsoir Fred.
Ah, moi je ne suis pas méchant. Hein.
Ah non, mais notre éditeur ne parle pas de Fred.
Peur.
Non, c'est, il parlait Vidal. De Vidal expulsé face à Naples, le milieu du Barça. Mais bon, c'est son tempérament.
On peut pas dire que ce soit un bisounours, hein, ça c'est clair.
Ouais,
hein.
Mais,
bonsoir Hakim, bonsoir à tous.
C'est le meilleur joueur du Barça, bien sûr. Avec,
c'est tout dire.
Avec Ter Stegen, bien sûr, le gardien allemand qui fait encore des miracles. Et l'autre jour, même Thibaut Courtois, le gardien belge du Real, a réussi quelques arrêts, mais n'a pas pu empêcher la défaite du Real. On va y revenir dans un instant, mais bien sûr, le rendez-vous, c'est dimanche, et le Classico, le Real qui accueille le Barça. 2 points séparent les deux équipes, et le Real pourrait repasser en tête en cas de victoire. Le Zamalek qui a failli doubler la mise avec une balle sur la transversale. Nos auditeurs sont là. On accueille Aurélien de Vernoy, notre monsieur football anglais, Manchester City, la seule équipe à avoir tiré son épingle du jeu, parce que pour les autres, eh bien, ce n'est pas très brillant. Mais n'empêche, City a gagné face au Real qui détient le record de victoire. Bonsoir Aurélien.
Bonsoir Hakim, bonsoir Fred, bonsoir à tous. En effet, hein, City qui sauve un peu l'honneur de l'Angleterre dans ces huitièmes de finale de Ligue des Champions, mais qui sauve l'honneur de manière assez flamboyante, parce que j'ai trouvé qu'ils avaient quand même fait un très bon match à Madrid. Fred dira que c'est plutôt Madrid qui a fait un mauvais match, mais bon, les points de vue se confrontent, on va dire, là-dessus.
On va lire quelques messages de nos auditeurs. Il y a déjà Al-Saïdsi, mon consultant, mon idole, Fred Hermel. Bonsoir Fred, depuis le Sénégal, quiero mucho Fred, déjà. Youssef Laroche, bonsoir Hakim. Avec le match de Dortmund, quels sont les absents du PSG pour le match de Dijon ce samedi? On en a parlé tout à l'heure avec Hervé, avec Neymar qui est suspendu après son expulsion face à Bordeaux, et également eh bien, le capitaine Silva qui est blessé au Mahanich. J'ai hâte de savoir les explications de Fred à propos de quoi, à propos de la défaite peut-être, mais déjà moi je me rappelle après la victoire de l'Atlético, enfin du Real lors de la Supercoupe, et le Real était en tête du championnat, très loin devant le Barça, lors d'une conférence de presse, Zidane a dit il suffit de perdre 1-2 matchs et j'aurai toutes les critiques sur le dos, c'est le cas d'ailleurs en ce moment, et également d'autres messages, on va lire ça au fur et à mesure, si on n'arrive pas à tout lire, eh bien nos auditeurs vont nous excuser parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. On parle d'abord football espagnol. Valencia battu l'autre jour, l'Atlético a gagné, le Real battu et le Barça tenu en échec. Si on résume rapidement, Naples-Barça et aussi Real City. Après, on écoutera Aurélien parce que City a un autre rendez-vous dès ce week-end avec une finale, un titre, un trophée en jeu. Fred, d'abord.
Je pense que ce sont deux matchs qu'on peut vraiment pas comparer. Parce que le Barça a fait vraiment un très mauvais match, revient avec un point, mais dans le jeu c'était quand même très inquiétant, alors que le Real qui a perdu, je pense, n'est pas en si mauvaise forme que le Barça, parce qu'au Real quand même il y a des alternatives dans l'effectif, au Barça non. On l'a souvent expliqué ici, les blessures, les joueurs qui ont été vendus, fait que la marge de manœuvre de Quique Setién à l'heure de composer son 11 est quand même très très réduite. Et d'ailleurs, au moment où je vous parle, il n'y aura que 11 joueurs disponibles pour le match retour contre Naples à la maison, avec notamment les blessures qu'il y a pu y avoir, et les suspensions. Pour ce match au Barça, on voyait bien que Messi n'avait pas envie de jouer. Messi s'est touché un petit peu le genou, il a géré. On sait que depuis des semaines, voire des mois, il a une petite gêne lancinante à un genou et que parfois, il faut qu'il choisisse ses matchs. On a bien vu l'autre soir sur la pelouse de Naples, qui est quand même une équipe assez faible, on va quand même le reconnaître. Le Barça a été dans la gestion, même s'il a été mené. Mais est-ce que c'est parce qu'il ne pouvait pas donner plus ou parce qu'il pensait déjà au match de dimanche, en disant qu'en Ligue des Champions, il y avait un match retour, mais qu'en Liga, ce match à Madrid, il était encore plus important. Ça, on pourra le dire dans deux jours, quoi. Mais moi, j'ai trouvé le Barça très inquiétant, notamment au niveau physique, dans le rythme très bas qu'on montrait les joueurs catalans. Pour le match du Real Madrid, alors je suis d'accord avec Aurélien, que je salue bien entendu. Je pense que le Real n'a pas fait un mauvais match. Le Real a fait 10 mauvaises minutes. Je pense que ça a été un grand match d'entraîneur, c'est-à-dire deux systèmes tactiques, deux tactiques très bien élaborées par deux grands entraîneurs. La preuve, les buts se sont uniquement produits quand il y a eu des erreurs de chaque côté. Une erreur du côté de Chelsea qui a provoqué le but d'Isco, et deux erreurs du côté du Real qui a provoqué le but de Gabriel Jesus et le penalty marqué par Kevin De Bruyne. Donc je pense que c'était, moi j'étais au stade bien entendu, c'était un match vraiment très très intéressant à observer. Le problème du Real, c'est que Carvajal a sûrement fait le pire match de sa carrière, et que Ramos s'est fait manger la laine tondre la laine sur le dos par un gars plus que lui. Et là on voit que Ramos, ben, c'est 34 ans, on commence à les sentir, parce que j'imagine qu'il y a 3 ou 4 saisons, jamais Gabriel Jesus n'aurait pu battre Ramos de la tête.
On va écouter justement, il y a des questions de nos auditeurs, on va les poser dans un instant. On va écouter justement Zinedine Zidane, l'entraîneur du Real, après la défaite, les explications du technicien français.
Le sentiment, il est pas bon. Il est mitigé parce qu'il y a une bonne première mi-temps. Même s'il en a eu un petit peu de complications en début de deuxième mi-temps, on marque au plus mauvais de notre jeu, mais on fait le plus dur justement en marquant. Et à la fin, on a les 10-12 minutes de la fin qui nous font du mal. C'est une mauvaise passe. Ça fait 2 matchs que l'on perd d'affilée. Donc ça fait beaucoup. Surtout que quand on perd et qu'on a mal joué, bon, on peut comprendre, mais là c'est pas le cas. Donc c'est dur, après avoir fait un match comme on l'a fait ce soir, de perdre à la maison.
Voilà, donc pour l'analyse de la rencontre, bien sûr, malgré cette défaite, la deuxième, et le disait Zidane, bien sûr, ça intervient après le revers face à Levante en championnat, le match nul aussi, à domicile, face au Celta Vigo. Mais n'empêche, Zidane est optimiste, et d'ailleurs, même Pep Guardiola et d'autres joueurs l'ont dit, même côté anglais, s'il y a une équipe capable de refaire son retard, eh bien c'est le Real Madrid. Zinedine Zidane.
Je le pense, et puis tout le monde le pense de toute façon. Nous, on a ce devoir, en fait, de penser que, justement, on va aller là-bas pour se qualifier, et il va falloir gagner là-bas. On n'a pas le choix de toute façon, et on est capable de le faire. Et c'est ce qu'on fera au match retour.
Voilà donc pour Zizou, quelques réactions. Michel Fofana, Fred dit que Naples est faible, pourtant cette équipe a battu la Juve et Liverpool sur son terrain. Le Barça, malgré les blessures, a fait mieux. Il faut dire aussi qu'il y avait Ter Stegen qui a sauvé les meubles. Quelle relation pour Youssef Laroche entre Neymar avec, quelle relation à Neymar avec le Barça? Neymar fera tout ce que le Barça demande pour y retourner au club. Et puis, Oussama Hanich, les occasions ratées de City. Chez Fred, vous n'êtes pas objectif. Le Real était négatif dans sa pression. Et ensuite, question pour Fred sur le Classico. On y revient dans un instant, mais d'abord, on écoute Aurélien de Vernois, parce que City, c'est une équipe joueuse, on le savait, a subi par moments, mais n'empêche, a eu plusieurs occasions aussi. Et City a finalement gagné, on va dire, mérité, après tout, Aurélien.
Oui, ben, disons que moi j'ai été très sceptique sur la tactique mise en place par Guardiola sur la première mi-temps, enfin qui d'ailleurs a été maintenue pendant tout le match, c'est-à-dire en gros d'éviter la paire de défenseurs centraux du Real, Varane, Ramos, ne pas leur mettre de joueurs dans les pattes directement, les obliger à s'avancer un peu plus, à les sortir un petit peu de leur rôle et de jouer beaucoup plus sur les ailes. C'est-à-dire à obliger finalement la défense du Real à se découvrir. Ça a quand même globalement pas très bien marché pendant une mi-temps, et ça n'a marché que quand Sterling est rentré. Et c'est ça qui est intéressant, parce que c'est incroyable quand même que Guardiola aborde un huitième de finale aller de Ligue des Champions sans ses deux meilleurs joueurs depuis 3 saisons, à savoir Raheem Sterling et Sergio Aguero. Les deux étaient sur le banc, Aguero n'est même pas rentré. Donc c'était vraiment un coup tactique. Il s'est dit, bon bah je vais mettre De Bruyne un peu plus haut, je vais faire jouer Bernardo Silva, Gabriel Jesus sur les côtés, et puis on va voir un petit peu ce que ça donne. Et c'est vrai que je comprends l'amertume de Zidane à l'issue de ce match, hein, parce que c'est on va dire, la mise en place tactique de Guardiola a globalement pas très bien marché, sauf que derrière, eh ben, il y a quand même des très grands joueurs de cette équipe de City, et que un joueur comme Sterling, quand il rentre à l'heure de jeu à peu près, il met un bazar phénoménal parce qu'il est tellement rapide, il est tellement sûr techniquement, et il a quand même un bon sens du but. Forcément, derrière, Fred disait que Ramos vieillit un peu. Je trouve que Varane aussi est pas dans une très bonne passe en ce moment. Carvajal a fait un match abominable. Il y a que Mendy qui a à peu près tenu la baraque. Et c'est vrai que Sterling leur a fait très 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 mal. Et pour le match retour, moi je me pose vraiment des questions parce que le Real sera sans Ramos. À mon avis, ça va quand même poser des problèmes défensifs, même si Ramos vieillit. Face à l'armada offensive de City, je pense que ça va être compliqué.
Voilà, compliqué pour le Real pour le match retour. On essaie d'avancer, il nous reste 7 petites minutes. Ah oui, Fred.
Ah non, mais moi je dois répondre à cet auditeur qui me dit que je ne suis pas objectif, je ne prétends pas être objectif, j'essaie déjà d'être honnête. C'est déjà ça. Et cet auditeur qui doit très très bien connaître le football, mais qui dit que la pression du Real n'a pas marché. J'ai eu la chance d'être au match et je pense qu'Aurélien sera d'accord avec moi. Quand on voit par exemple qu'en première période, notamment le gardien de Manchester City traînait beaucoup, avait beaucoup de mal à dégager, justement à cause de du pressing organisé par le Real. Le pressing, la situation tactique du Real faisait que, ce qui était très rare pour City, il n'y avait pas de relance propre. C'était soit des longs ballons devant, ou soit ils ne savaient pas à qui le donner. Donc à ce niveau-là, faut avoir une petite connaissance du football, on s'aperçoit que justement la disposition du tactique du Real Madrid, et je pense qu'Aurélien sera d'accord avec moi, a beaucoup gêné City en première période.
Ça a gêné, mais il y a eu... Il y a eu des difficultés quand même, je trouve, du côté du Real pour se procurer des occasions de but. Il y a eu les débordements.
Parce que c'était
plutôt bien marché.
Mais parce que justement,
la disposition tactique. C'est-à-dire que la tactique était bien. Complètement. Mais je trouve que ça a été
les deux coachs
pour les attaquants madrilènes. Oui, mais les attaquants madrilènes, du coup, se sont rarement retrouvés en position de frappe. Et d'ailleurs,
bien
ça se voit dans les statistiques. Je crois que le Real a tiré quasiment deux fois moins au but.
Mais c'est ce que je dis, justement. C'est pourquoi, pour moi, il y a une supériorité tactique des entraîneurs qui a dépassé l'idée des deux entraîneurs. C'était pas de pas prendre de but. D'où la tactique un peu conservatrice de Guardiola de la première période, ça c'est clair.
Voilà, donc de toute façon, même Guardiola a reconnu avoir bien vu les matchs du Real, bien étudié pendant la trêve, et surtout le Real comment a joué face au Barça au Camp Nou. Justement, le Barça et Real se retrouvent dimanche prochain pour le Classico. Michael Fofana dit que le Classico de dimanche va nous situer sur la forme de ces deux équipes. Ce qui est sûr, c'est que il y a un ascendant. Peut-être le Real, ces dernières semaines, il y a quelques mauvais résultats, mais dans le jeu, il y a une supériorité. On ne va pas dire large supériorité, mais il y a une nette amélioration si on compare avec le rendement du Barça, le contenu en tout cas. Le Barça, le leader de la Liga. Et puis on arrive aux questions, justement, les pronostics de Fred. Comment se jouera cette rencontre? Après, on ira en Angleterre parce que City, je le disais tout à l'heure, a un titre en jeu à gagner, peut-être dès dimanche. D'abord le Classico, Fred.
Alors, je vais répondre à une question que tu as évoquée au tout début de l'émission. Quoi qu'il arrive, ce Classico ne sera pas décisif. Et personne à Madrid, ni à Barcelone, et surtout pas les gens du Barça, les gens du Real, pensent qu'en cas de victoire du Real, de match nul, ou de victoire du Barça, qui donnerait 5 points d'avance aux Catalans, que ce serait joué. Non, sincèrement, ce ne serait pas joué. Personne ne pense ça ici. Il y a des petits doutes ici sur notamment la participation de Gérard Piqué qui s'est blessé, qui s'est fait une entorse lors du match à Naples. Normalement, il devrait être présent, mais pas forcément à 100%. On sait du côté du Barça que physiquement, ils ne sont pas très bien en ce moment. Mais d'un autre côté, le Real Madrid a quand même une sacrée pression après la défaite contre City. Donc voilà, c'est un match qui va être tendu quoi qu'il arrive. On peut dire avec deux équipes qui sont un petit peu malades. Voilà, on n'est pas aujourd'hui avec un Barça flamboyant et un Real flamboyant. Même si, j'insiste beaucoup là-dessus, la grosse différence entre les deux équipes, et c'est ça qui va être décisif jusqu'à la fin de la Liga, c'est le fait qu'il y a très peu de joueurs disponibles dans l'effectif du Barça. Et ça, à un moment, ça risque de coûter cher.
Voilà, l'effectif du Barça très faible, même certains joueurs ont commencé à parler, on l'a vu l'autre jour, déjà Messi, ensuite Busquets, des cadres de l'équipe, même Piqué l'avait dit l'autre jour, et bien entendu, beaucoup de changements sont à attendre du côté du Barça. Manchester City qui repart avec un bon résultat, une bonne victoire, même si rien n'est encore acquis, et bien City a une finale à disputer dès dimanche face à Aston Villa. Sur le papier, City bien sûr part avec les faveurs du pronostic, mais on le sait, cette équipe, même pour le match du Real, est capable de passer à travers Aurélien.
Oui, c'est une équipe qui est irrégulière, je le dis depuis quelques mois déjà sur cette antenne, mais c'est vrai que City n'a pas du tout, on va dire, la sûreté qu'elle avait pu avoir, notamment en défense ces dernières années. En plus, Emeric Laporte s'est de nouveau blessé lors du match contre le Real. Il va être absent entre 3 semaines et 1 mois, donc il ne sera pas sur la pelouse dimanche. Donc il y a peut-être un coup à faire du côté d'Aston Villa, même si évidemment, au jeu des pronostics, Manchester City est très largement favori. L'impact qu'il va y avoir de ce match est aussi sur la Première Ligue, puisque ça fait 2 matchs reportés, et notamment il y avait un match entre Arsenal et City qui devait se jouer ce week-end. Et puis, la grosse inconnue désormais en Angleterre, et on en parle de plus en plus, c'est que va avoir comme impact l'épidémie de coronavirus sur la Première Ligue. Donc City finalement a peut-être l'occasion ce week-end de s'assurer un titre qui sera peut-être le seul titre attribué cette saison, parce qu'il n'est pas du tout impossible que les matchs soient suspendus pendant quelques semaines voire quelques mois, et donc ça bouleverserait complètement le calendrier, voire ça annulerait la saison de Première Ligue. Et je peux vous assurer que les supporters du Liverpool, je pense, ils préféraient avoir le coronavirus que de voir Liverpool ne pas gagner le championnat cette saison. Parce que je pense que la perspective de voir Liverpool ne pas s'imposer cette saison avec la saison qu'ils font à cause d'une épidémie, ça leur ferait vraiment très 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 mal.
On aura l'occasion de revenir sur ce qui se passe du côté de Liverpool, avec Fred notamment, bien sûr, Liverpool à la recherche d'un premier titre de champion depuis 30 ans. Et cela serait passé en Espagne, comment les supporters du Barça ou du Real agiraient si le Real ou le Barça ne remportent pas de titre pendant une durée de 30 ans. Merci à tous, Michael Fofana, City, c'est une finale déjà gagnée pour Guardiola et Youssef Laroche. Très bon week-end à tous nos auditeurs, nos consultants, l'équipe bien sûr technique qui nous accompagne. Merci à tous et excellent début de soirée à l'écoute de Média.